Comme le dit Philippe Danault, c'est le vent d'en face que le Canadien avance dans cette série-là contre les Golden Knights de Vegas et il trouve quand même le moyen de la mener 2-1. Le quatrième match sera présenté ce soir, 20h au Centre Bell. On se retourne vers Danny Dubé. Salut Danny.
Salut Evelyne.
Tu vas bien?
Très bien, merci, merci. Ben, c'est une belle journée pour moi.
Bonne fête des pères hein, et des grands-pères aussi même, mais, dans
ben
ton
oui,
cas.
Dans mon cas, évidemment, oui. Cette année, c'est un beau cadeau de la vie. Un beau petit garçon en forme, on est bien heureux de ça. Puis j'essaie de me garder en forme comme ça, quand il sera plus grand, je pourrai aller courir avec.
C'est beau.
Au parc.
Dis-moi, alors les Golden Knights, c'est l'équipe qui a signé le plus de victoires hein, cette saison. On savait que ça allait être difficile. On était content que le Canadien revienne à Montréal avec une série égale 1-1. Là, on ne peut pas demander mieux qu'il l'amène 2-1. Par contre, des victoires comme vendredi, ça peut fonctionner des fois, mais une fois, mais pas deux ni trois. Là, il va falloir trouver un moyen d'être un petit peu plus convaincant ce soir. Ça passe par quoi prioritairement?
Ben écoute, c'est sûr que dans l'exécution, le Canadien, c'est une équipe qui doit avoir un certain rythme dans son jeu. Je pense, tu sais, la zone neutre, quand l'adversaire se met à un petit peu barricader la zone neutre ou me mettre de la pression sur le porteur du disque en zone neutre ou l'ailier lorsqu'ils essaient de sortir de la zone puis qu'ils sont pas capables d'avoir une bonne deuxième passe, ça recomplique la vie. Parce que depuis le début des séries, je trouve quand même les défenseurs réussissent assez bien à donner cette fameuse première passe pour lancer l'attaque. Souvent, c'est la deuxième passe qui cloche. Elle vient de l'ailier, elle vient de joueur de centre, elle vient d'un attaquant. Souvent, ce que les Golden Knights ont réussi à faire de bien dans le match numéro 1, entre autres, c'est qu'après la première passe du défenseur, on orientait le jeu, puis là, ben ça coince. La rondelle se retrouve dans une zone où il y a déjà pas mal de méchants qui t'attendent. Tu sais, c'est un peu une souricière. Donc ça, ils doivent trouver une façon d'avoir du rythme puis d'essayer, évidemment, de continuer à ébranler la défensive. Là. C'est sûr qu'au dernier match, là, je suis d'accord avec toi à 100%. Tu sais, Marc-André, c'est une... Premièrement, au match numéro 2, il a été ordinaire. Mm-hmm. Puis au match numéro 3, il leur a coûté le match. Il le sait. Là. Ça fait que ça, c'est pour moi, ça, c'est quand même... Je pense que le Canadien doit rester conscient dans tout ça.
Il y avait quand même un plan de match vendredi qui était clair, c'était de mettre de la pression rapidement sur Fleury. Mais ça n'a pas été fait du tout. Là. Ils ont pris le premier tir à 8-33 en première. Les Golden Knights en avaient déjà pris 12 sur Price. Ça, est-ce que c'est l'exécution du Canadien qui faisait défaut ou si c'est le travail des Knights qui fonctionnait bien? Ou un peu des deux? Là?
Une combinaison, parce que les un peu des deux, les Knights, je pense, avaient le couteau entre les dents d'avoir une bonne première période. Pour eux autres, c'était quand même essentiel, là. Et puis, honnêtement, là, je dis ça le plus candidement du monde, l'équipe qui méritait de gagner, c'était les Knights. Mm-hmm. Ils ont mieux joué que le Canadien à partir de la première à la dernière minute. Sauf que c'est une erreur. Là. Je dis pas que Marc-André a mal joué, mais c'est une erreur qui a coûté le match. Après ça, ça arrive des soirs que ton équipe a pas de jambes. Ça arrive. Puis je trouvais que le Canadien était... Il n'était pas dans son assiette. Il n'y a absolument rien qui fonctionnait. Et je veux dire quelque chose par rapport à ça. Depuis le début des séries, la moins bonne des deux équipes, c'est toujours le Canadien. Donc, évidemment, eux autres, sur le plan émotif, là, ça siphonne. Là. Ils ne peuvent pas être à 80 %. Dans leur tête, ils ne peuvent pas être à 90 %. Dans leur tête, ils doivent être à 100 %. Puis je pense que au dernier match, là, c'était comme généralisé, il y avait comme une espèce de... Tu sais, c'était difficile de trouver une façon de lancer l'équipe. Pour toutes ces raisons-là, je pense, combinées. Là.
Mais tu trouves même qu'au match 2, la victoire de 3-2, tu trouves même dans ce match-là que les Golden Knights ont mieux fait?
Ben, ce que je trouve, c'est que les buts du Canadien ont été des buts plus faciles que ceux des Knights. Ça a été plus facile pour le Canadien de marquer que pour les Knights. Mm-hmm. C'est, en d'autres mots, il faut que tu travailles très, très fort pour battre Price. Et dans le match numéro 2, pas fallu travailler si fort que ça pour battre Fleury.
Oui, je comprends.
T'sais, sur le deuxième but, elle lui passe entre les jambières. Là, la feinte de Caulfield est magistrale. Là. Puis ça va. Mais... Tu te déplaces ton bâton dans les airs, la rondelle te passe entre les jambes. N'importe quel gardien de la Ligue nationale va te répondre la même chose. Elle ne peut pas me passer à travers le corps. La rondelle ne peut pas me passer à travers le corps, tu comprends? T'sais? Parce que tu fais tous les efforts pour arriver à temps sur la rondelle ou dans la ligne de tir. Après, c'est d'être compact. Ça arrive là que ça passe. Mais à chaque fois où ça arrive, ce qui se dit là, dans le milieu des gardiens de but, c'est quand ça me passe à travers le corps, c'est un mauvais but.
Dis-moi, Danny, je suis contente de t'avoir, toi, aujourd'hui, pour parler, justement, du point de vue entraîneur. Là. L'équipe doit se débrouiller sans Dominique Ducharme. Là, on sait que ça va être pour 14 jours.
Ouais.
Autrement dit, là, le Canadien n'a plus d'entraîneur d'ici la fin de cette série-là, ça, c'est sûr. C'est quoi exactement l'effet de l'absence d'un entraîneur en série comme ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Et est-ce que Ducharme peut quand même intervenir à distance?
Oui. Oui, il intervient déjà à distance, là, en avant-match, par vidéoconférence, puis ensuite avec Alex Burrows là, dans l'écouteur. Donc ça, il y a un système
qui est
déjà en
place. Tout le long du match, il est dans
l'écouteur? Oui, il est là, il discute, okay. Il discute pas, là, mais il donne des consignes si nécessaire. T'sais, lui est capable d'entrer en contact directement avec l'entraîneur au banc, ça c'est sûr. Maintenant, une fois que ça c'est dit, il reste que... tu sais, ce que tu souhaites toujours, c'est que tu ne te retrouves pas dans une situation où il y a une fraction de seconde où l'entraîneur en chef doit prendre une décision qui irait un peu à contre-courant avec celle que Dominique aurait prise. Mais en même temps, ils se font confiance. Ils ont des meetings d'avant, ils préparent le match ensemble, même si Dominique est à distance, est en communication. Après ça, une fois que le plan est en place, c'est l'exécution. Donc, moi, je trouve que ce que ça a comme effet, c'est un effet rassembleur. Ça responsabilise les joueurs beaucoup. Mm-hmm. Tu sais, veut pas, là, si tout va bien, l'entraîneur intervient beaucoup moins. C'est quand ça va mal que l'entraîneur est obligé d'intervenir, lorsque l'adversaire fait un meilleur travail. Mais tout ça, ça arrive parce qu'individuellement, il y a des ratés. Moins il y a de ratés individuellement, moins il y a d'intervention de l'entraîneur. Donc, par conséquent, moins Luke Richardson va avoir à faire des ajustements puis à changer des choses si son équipe est en contrôle. Alors, évidemment que c'est ce qu'on souhaite.
Luke Richardson, il faut qu'il se comporte comment, lui? Tu sais, il est habituellement responsable des défenseurs. Est-ce qu'on s'attend à avoir une différence sur le jeu des défenseurs dans l'immédiat ou là, il ne s'occupe pas de ça? Son rôle, c'est vraiment juste de remplacer Ducharme et aller dans le même courant que lui?
Non, il gère le banc. Oui, c'est ça. Il gère le banc, il s'occupe vraiment des défenseurs, même s'il y a un œil sur tout. Là. S'il y a quelque chose, il dit à Sean Burke, puis Burke va faire les ajustements. C'est lui qui le bosse. Mais je pense que Luke a assez d'expérience. C'est un ancien joueur. Il est très apprécié des joueurs de l'équipe. Il est respecté. Donc, ils vont le suivre. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va se mettre à faire la baboune s'il y a une décision ou s'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas à l'avantage d'un ou de l'autre. Je pense qu'il y a un sens commun qui est tellement fort à ce temps-ci de l'année. Je diminue en rien, là, mais lorsque ça, c'est en place, ta job est pas mal plus facile. À ce point-ci de la saison, là, c'est très rare que tu vas avoir un joueur qui va arriver à l'aréna et qui va être un peu à contre-courant ou qui va faire la baboune ou qui va, tu sais, dans son coin. Les joueurs, tout le monde est content pour l'équipe, tout le monde est impliqué, tout le monde espère que, tu sais, tout aille bien, mais ils sont prêts, ils restent prêts parce qu'ils peuvent être appelés à sauter dans la mêlée à n'importe quel moment. Puis c'est ce qu'on veut. On veut pas qu'il y ait personne qui devienne une distraction. Puis personne qui vienne un peu diluer, si tu veux, toute l'énergie positive qu'il y a autour de l'équipe. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense que dans les circonstances, c'est la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Si Joël Bouchard avait été autour, je sais pas, moi j'avais l'impression que Joël, qui est un entraîneur-chef dans l'âme, qui était l'entraîneur-chef dans la Ligue américaine, on aurait pu copier ce qui avait été fait à New York à ce moment-là, puis de lancer l'entraîneur dans la mêlée, l'entraîneur de la Ligue américaine, mais là, il n'était pas dans la bulle.
Il était
sorti de la bulle, quelque chose. C'est ça, quelque chose que j'ai appris... un peu plus tard, là, parce que moi, je croyais qu'il était toujours autour de l'équipe, parce qu'on n'a pas accès à l'équipe, fait que je ne le vois pas. Là, je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. Puis il était là au début, alors c'est ce qui avait été annoncé. Alors, j'étais sous l'impression qu'il était encore là, mais il ne l'était plus. Donc, il n'était pas éligible pour... il ne faisait pas partie des gens disponibles pour venir aider.
Je veux qu'on parle aussi, Dani, des mises en jeu, ces fameuses mises en jeu. Statistiquement, là, le Canadien en gagne la majorité, mais perd celles qui sont importantes. Dans les deux premiers matchs, les Golden Knights ont marqué 4 fois tout de suite après une mise en jeu dans le territoire du Canadien. Puis je pense que Nick Suzuki a fait les frais de ça là, après 2 matchs. Il en avait gagné 7 sur 10 en zone défensive. Les 3 perdus ont mené à un but. Vendredi, ça m'a semblé un petit peu moins flagrant, mais là, comment on fait pour redresser ça comme problème d'équipe, de gagner des mises en jeu, mais celles qui sont importantes? Comment tu gères ça?
Bien, en fait, c'est que ça prouve que les statistiques ne disent pas tout. Ça, c'est clair, là, parce que si tu, dans le fond, tu gagnes la majeure, tu as l'avantage au niveau du cercle des mises en jeu, mais tu te fais marquer des buts. Ça veut dire que le rôle de tes coéquipiers, quand tu es joueur de centre, sont aussi importants que le tien. Parce que tu peux perdre une mise en jeu au départ, puis en tirer avantage. Puis là, je l'explique rapidement, là, les gens qui nous écoutent, puis peut-être ça va, j'espère qu'ils vont t'intéresser aussi.
C'est supposé.
Souvent, là, ce qu'on fait, c'est supposé. Souvent, là, si tu prends le cercle de mise en jeu, OK, bon, l'équipe, si le joueur de centre gagne la mise en jeu, là, ça veut dire que la rondelle est de son côté du point de mise en jeu. OK? Ça, ça veut dire que ça, c'est plus. Et là, il y a une autre connotation qui est ajoutée. Si on récupère la rondelle, bien là, ça veut dire que sur la mise en jeu, on est plus. Si on perd la mise en jeu, le joueur de centre perd la mise en jeu, c'est un moins. Si c'est on la perd, le joueur, l'ailier ou le défenseur vient la récupérer, c'est moins plus. Et si, à l'effet inverse, c'est le contraire, ben c'est moins. Donc, pourquoi j'explique ça, c'est qu'il y a le rôle du joueur de centre, puis il y a le rôle des autres dans le cercle de mise en jeu. Parce que une fois que la rondelle est tombée, ça devient pratiquement, à moins que ce soit une mise en jeu gagnée à 100%, ça devient un 50-50. C'est qui va être le plus vif, la vivacité d'esprit, etc. Et ça, ça se déploie aussi sur les déplacements des joueurs une fois que la rondelle est dans un camp ou dans l'autre. Tu comprends que si tu gagnes la mise en jeu, tu vas t'étendre. Tu sais, tu te déploies comme attaque pour utiliser toute la glace. T'éloigner dans le fond de l'adversaire. Si tu perds la mise en jeu, tu te resserres vers le centre. Parce que tu veux protéger les lignes de tir, t'assurer de protéger ton gardien de but. Donc, cette espèce d'effet accordéon est directement relié au plus, plus moins ou moins plus. Tu sais. Et ça, ben, c'est super important. Puis le Canadien, là où ils sont vulnérables depuis un certain temps dans cette série, c'est que ils sont pas assez vite pour aller d'identifier les corridors de tir. Ils courent après un joueur sans savoir si c'est lui qui va tirer. Tu sais, quand la rondelle tombe, la rondelle s'en va à une position, il faut que tu regardes, c'est qui le joueur le plus menaçant? Qui va recevoir la rondelle? Tu sais, moi, je dis ça très candidement, là. Je suis à la glace, mon joueur de centre perd la rondelle, puis je suis un ailier. C'est sûr que moi, le 27 ou le 7, je m'en vais direct dessus, là. Parce que c'est eux autres qui ont le plus de tirs depuis le début des séries. Puis s'il est sur mon bord, c'est sûr que je m'en vais dessus. S'il n'est pas sur mon côté, ben là, je regarde la position de la rondelle, je regarde la position de mon coéquipier. Si je ne suis pas capable, je vais aller entre les deux. Pourquoi je vais aller entre les deux? Je coupe la ligne de passe. Quand je coupe la ligne de passe, je facilite la décision du gars qui est derrière moi. Évidemment, tu enlèves la ligne de passe, il ne peut pas faire la passe au 27 et le jeu reste sur le bord de la bande, tu comprends? Fait que tout ça, là, c'est tous des petits détails que c'est dans le feu de l'action. Et pourquoi le Canadien n'a pas été très efficace là-dedans? Ben, c'est souvent parce que on est habitué à plutôt se camper dans l'enclave pour protéger Price puis concéder des tirs. Mais là, les tirs, ils passent à travers. Fait que quand les tirs passent à travers, ça devient menaçant. C'est des déviations, c'est des tirs voilés, c'est etc.
On a quand même des champions du blocage de tirs aussi, par exemple.
Ben c'est ça. Ça, c'est le contrepoids.
C'est le couteau à deux tranchants. Là, ouais.
Exactement. Ça, c'est le contrepoids de ce qu'on fait. Puis moi, écoute, pour l'avoir vécu sur les grandes glaces olympiques, que ce soit en compétition internationale ou durant les Jeux ou même un championnat du monde ou ces trucs-là, je te dis, pour moi, là, c'était les mises en jeu, c'était un moment crucial. Donc, quand je préparais les plans de match, c'est une affaire sur laquelle je passais énormément de temps. Je regardais J'établissais, il y avait à peu près 3 ou 4 positions de rondelles là, entre les patins du défenseur, du joueur de centre adverse, le long de la rampe sur l'ailier qui est placé sur le bord de la bande, dans le centre, là où c'est plus difficile d'aller la chercher parce qu'il y a plus de trafic. Puis comment les joueurs doivent décider. Puis souvent, là, ce que je me suis rendu compte, c'est que les deux ailiers, ils peuvent se parler pour dire, OK, si je me fais bloquer, je pars en premier. Quand je me fais bloquer, c'est toi qui vas aller sur mon joueur à moi. Parce que c'est un peu comme une espèce de permutation comme au football. Tu sais, tu as deux joueurs qui s'en viennent. Le premier se fait bloquer, ben OK, c'est parfait, il bloque mon chum, c'est moi qui vais aller pour mettre la pression sur le corps arrière. C'est un peu l'idée, là. C'est pas sur le corps arrière, c'est sur le défenseur. Fait qu'il y a un peu de ça aussi. Mais ça, c'est la responsabilité des coachs d'établir ces affaires-là pour dire OK, qui fait quoi? Puis là, une fois que le qui fait quoi est en place, ben c'est voici les différents scénarios. Puis là, je te dis, il faut rendre ça simple parce que tu as une fraction de seconde pour réagir. Fait que souvent, le plus simple, c'est que les joueurs s'arrangent entre eux.
Danny, dernière question pour toi. Est-ce que Luke Richardson devrait y aller avec Price ou Allen ce soir? Réponds même pas à ça. Hey, merci, Danny, c'était le fun.
Laisse-moi y penser.
Tu veux répondre? Merci pour ton analyse. Hein. C'était ma dernière de la saison, donc ça a été le fun de t'avoir tous les jours de match.
Super de partager ou de collaborer, puis espérons travailler ensemble très bientôt.
Merci. Bonne fin de saison, Danny.
Merci, c'est gentil. Bye-bye.
On passe à la pause et au retour, c'est Martin McGuire qui est là pour nous résumer l'entraînement du Canadien de ce matin. À tout de suite.